l'histoire.
Franck Ferrand. Et à l'occasion de l'inauguration de la Cité du Vin qui a lieu aujourd'hui à Bordeaux, c'est à l'hôtel Georges V, dans le cadre somptueux de la salle à manger du restaurant Le 5, que nous nous retrouvons aujourd'hui, Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Un cadre somptueux, vous l'avez dit, pour servir d'écrin à cette émission consacrée à l'histoire du service du vin, de l'échansonnerie d'autrefois à la grande sommellerie d'aujourd'hui. Éric Beaumard, chef sommelier du Georges V, est avec nous, ainsi que Christian Lesquer, qui est le chef du restaurant 3 étoiles, et bien sûr, notre ambassadeur habituel dans tout ces temples de la gastronomie française, Nicolas de Rabaudy, qui connaît comme personne l'histoire des plus hautes traditions. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous décrire la salle, la superbe salle néoclassique qui nous accueille? Oui, peut-être. Imaginez de hautes colonnes de marbre blanc vénégri, avec des pilastres, partout des moulures de grandes glaces fumées et des toiles de maître, des tapis épais, des ors vieillis, un mobilier d'acajou bronzé, des lustres et des flambeaux dont les petites flammes tremblotante se reflète dans les porcelaines fines et la vieille argenterie. Nous sommes là au cœur même de la belle tradition française, Nicolas de Rabaudy.
Bien sûr, c'est un des plus grands palaces français et de Paris, hein, qui est devenu le Four Seasons, hein, de la chaîne canadienne Four Seasons, puisqu'il a été refait et racheté par le prince Al-Walid, hein, qui est le propriétaire des murs d'ici, et qui a tout fait, en nommant des hommes d'abord, pour que le 5 redeviennent 3 étoiles grâce à Christian Lesquer et qu'il ait une cave historique de 60 000 bouteilles façonnée, dégustée par Éric Beaumard, vice-meilleur sommelier du monde. Alors donc, ici, c'est un grand établissement.
Oui, cette cave légendaire, nous irons nous y promener tout à l'heure et j'essaierai pour nos auditeurs de la décrire. Je leur signale d'ailleurs qu'ils peuvent voir des images de tout cela sur le site internet d'Europe 1, bien entendu. Vous nous parlez de la chaîne Four Seasons, etc. Qu'était le Georges V à l'origine? D'abord, quand ce palace a-t-il été conçu?
Alors, le palace date de 1928. Mm-hmm. C'est un palace art déco, n'est-ce pas? À l'époque, le seul rival, c'est le Ritz. Le Meurice, plus vieil hôtel français.
Bien sûr,
1835.
Il faut pas
l'oublier, oui. Donc, c'est le troisième grand hôtel français. Ici, il y a eu une grande tradition américaine, n'est-ce pas? Tous les grands producteurs de films, à commencer par Daryl Zanuck,
bien sûr,
venaient ici, avaient leurs appartements ici. Ça a été l'hôtel du cinéma de Marlène Dietrich, de Juliette Gréco. Et il s'est passé beaucoup de choses ici, puisque le Georges V...
On l'appelle le Georges V, évidemment, du nom du souverain britannique de la même époque, puisque
bien
vous
sûr,
nous dites
oui.
que c'est 28-29, en
c'est
fait.
C'est ça, absolument.
Alors, Christian Lesquer, lorsqu'on est à la tête de ce... Je dis de ce ou de ces restaurants, parce qu'il y a plusieurs...
De ce restaurant.
Oui. Le restaurant, c'est le 5, en
exactement.
L'occurrence. C'est le 3 étoiles de la maison.
Voilà, c'est le nouveau 3 étoiles cette année, en 2016, on a été promu à 3 étoiles. J'avais une mission de le porter, cette gastronomie, de la porter à 3 étoiles au guide Michelin.
Alors évidemment, vous avez votre patte, nous parlerons tout à l'heure de votre incroyable savoir-faire et nous mettrons l'accent sur les accords mets vins, puisque c'est le vin, c'est la sommellerie qui est un peu le fil conducteur de cette émission d'aujourd'hui. Lorsqu'on entre dans une maison comme celle-ci, est-ce qu'on peut encore exprimer sa singularité? Est-ce qu'on n'est pas obligé de se couler dans ce que les autres ont fait avant? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier en quelque sorte de la célébrité et du prestige des lieux?
Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un chef quand même, j'avais un héritage de 15 ans de 3 étoiles qui était chez le doyen. Donc c'était pour la première fois le groupe Georges V Four Seasons est venu chercher un chef 3 étoiles. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de plats signature et surtout j'avais une cuisine qui allait bien avec le vin. J'ai une cuisine pour le vin.
Alors, le vin, le mot a été prononcé déjà une dizaine de fois depuis le début de cette émission. Bonjour Éric Beaumard.
Bonjour.
Vous êtes donc celui qui préside à toute la...
Aux
destinées du vin, là, justement, dans cette maison.
Ah bien sûr. C'est la partie la plus originale, en fin de compte, parce que c'est extrêmement rare, et même aujourd'hui, d'avoir une cave d'un établissement comme celui-ci, vide... Et de la reconstituer, en fin de compte. Et c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, je suis venu pour ça au départ.
Alors, avant d'entrer dans l'histoire de cette maison, avant d'en goûter les mets et d'en humer les vins, je vous propose de revivre l'aventure de la sommellerie. C'est un métier, finalement, sommelier relativement récent. Vous allez voir ça.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Tête grignotée.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Alors qu'aujourd'hui la Cité du Vin est inaugurée à Bordeaux, vous nous proposez une émission consacrée au métier de sommelier. Vous êtes depuis le restaurant Le 5 à l'hôtel Georges V, Franck Ferrand, avec votre invité Éric Baumard.
Dans sa préface à l'ouvrage d'Éric Baumard, « Les vins de ma vie », Alexandre de Lursalus écrit « Outre la connaissance géographique du vin, des cépages, des climats, diraient les bourguignons, des millésimes, des mille détails qui différencient le vin, le sommelier est un pont entre de nombreux acteurs. C'est aussi, ne l'oublions pas, un dispensateur de bonheur. » Voilà une définition à laquelle souscrit visiblement mon voisin Nicolas Drabaudy. La vocation du sommelier ressemble un petit peu à celle de l'équilibriste. Un équilibriste qui doit faire preuve à la fois d'érudition, de délicatesse, d'un certain sens de l'à-propos auprès du client qui lui est installé confortablement à la table du restaurant. Il faut se montrer ni trop présent, je pense, ni excessivement en retrait, ni pédant, ni expéditif. Et puis, de la même façon que le vin doit correspondre au repas qui s'annonce, on attend du sommelier qu'il s'adapte à son interlocuteur, qu'il jauge ses désirs. Ça, c'est sans doute le plus difficile parce qu'attention, il ne s'agit pas d'imposer ses vues, pas plus que de laisser le client sombrer dans l'erreur manifeste. Et pourtant, si le client est résolu à se tromper, eh bien ma foi, je pense qu'il faut lâcher prise et ne rien laisser paraître. Chargé en quelque sorte d'apporter sa couronne au festin, le sommelier exerce un art qui donc est subtil, un art vieilli dans les fûts de l'histoire. Des récits très anciens font déjà état d'échansons. Les échansons sont ces personnes qui spécifiquement sont dévolues au service des boissons auprès de grands personnages. La mythologie grecque évoque deux grandes figures d'échansons des dieux. On connaît Hébé. Hébé était la sublime fille d'Héra, peut-être de Zeus, déesse de la jeunesse. Elle est chargée de servir le nectar et l'ambroisie aux divinités. Et ça, c'est la mission essentielle, bien entendu. Mais voilà qu'Hébé trébuche en assurant son service et s'effondre dans une position quelque peu honteuse. Selon certaines versions de la légende, elle doit alors renoncer à son rôle à la table des dieux. Et celui qui la remplace est un jeune prince à la beauté stupéfiante qui lui s'appelle Ganymède. Il n'arrive pas là par hasard puisque c'est Zeus qui l'avait remarqué, qui s'était pris de lui, qui s'est transformé en aigle pour pouvoir l'enlever et le placer donc à son service. Dans un tout autre registre, la Bible évoque elle aussi plusieurs figures des chansons. Le personnage de Néhémie, qui aurait exercé cette fonction auprès de souverains perses, on est là au 5e siècle avant notre ère. Le texte biblique montre l'une des caractéristiques importantes de cette fonction des chansons. Au service direct du roi, Néhémie jouit d'une certaine proximité. Ça n'est pas rien, ça, évidemment. Vous devenez un familier d'une certaine façon. La fonction des chansons est extrêmement ancienne, vous l'aurez compris. Elle est socialement définie. Elle peut avoir, vous l'aurez aussi compris, des implications politiques. On peut penser que, d'une manière générale, à des époques où le risque d'empoisonnement plane, c'est à une personne de confiance qu'on ne peut que confier un tel rôle. Selon les peuples, selon les époques, le statut de l'échanson va évoluer, bien entendu. On en retrouve en tout cas des échansons au Moyen-Âge. La fonction existe à la cour de Charlemagne, par exemple. Quant aux Capétiens, certaines sources nous disent qu'ils vont reprendre cette fonction et la perpétuer à partir de leur accession au trône, donc en 987. L'étendue des attributions de l'échanson parmi les serviteurs et les officiers royaux est assez difficile à cerner, il faut bien le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'échanson ne se cantonne pas au strict service des boissons. Il est aussi chargé d'approvisionner la cave, d'où un rôle stratégique extraordinaire. Et puis, selon la cour dont on parle, il peut être entouré d'une véritable brigade. Il y avait par exemple à Versailles un grand maître des chansonneries Bouche qui était à la tête de tout un véritable régiment des chansons. Les personnes désignées par le mot « sommelier » sont assez loin du rôle de spécialiste du vin. C'est-à-dire qu'à l'époque, le sommelier, c'était celui qui assumait des travaux de somme, n'est-ce pas ? Et notamment la conduite des troupeaux, nous dit Alain Rey. Par extension, il va devenir l'officier chargé de l'acheminement des biens, donc une sorte d'intendant, d'une certaine manière, responsable des fournitures qui sont nécessaires, donc en termes de, bien entendu, de nourriture, mais aussi de vaisselle, etc., et de cave. Et voilà comment petit à petit le sommelier évoluera vers une fonction d'échansonnerie. au bas Moyen Âge, c'est-à-dire plus près de nous, le service des boissons va prendre des formes assez spécifiques. Il faut vous dire que les échansons se trouvent généralement tout près du dressoir, qui est une sorte de desserte, hein, un petit peu loin de la table. Il y a là des bassines, des verres, etc. Là, on va peu à peu améliorer les techniques qui permettent d'améliorer la dégustation pour le plus grand bonheur des amateurs de vin. Pierre Hemnes en donne un exemple. Vers 1470, dit-il, peut-être en Allemagne, apparaît un petit meuble en métal, le rafraîchissoir. Dans les premiers temps, il affecte la forme d'une cuve cylindrique posée sur 3 ou 4 pieds et pourvue de 2 poignées. On les posait au sol pour y mettre le vin à rafraîchir, probablement dans des gourdes et des simarres dont les systèmes de fermeture permettaient d'éviter que l'eau se mêlât au vin. De même, les verres tels que nous les concevons, les verres en verre, vont prendre petit à petit leur place, juste avant la Renaissance, disons, ce qui va permettre d'éviter le petit goût désagréable que les récipients jusqu'alors métalliques pouvaient donner au vin. Il y a probablement des différences régionales dans la façon de servir le vin en Europe. La cour des cours, à l'époque, c'est celle du Grand-Duché d'Occident, c'est la cour de Bourgogne. Et alors là, il y a un véritable ballet de service, très bien réglé, avec beaucoup de précision, et qui se rejoue repas après repas en mettant en scène les différents officiers. Massimo Montanari précise, c'est une constante des comptes rendus du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il se concentre sur les aliments et jamais sur les vins. Il n'était pas concevable que quelqu'un impose ou simplement suggère une bonne association avec un plat. La liberté de choix individuel était respectée de la manière la plus absolue. Si nous devions vraiment indiquer une règle générale en suivant les maigres indications des textes des 15 et 16e siècles, nous pourrions dire que les mets au goût très prononcé et bien assaisonné exigent, contrairement à ce que nous pourrions imaginer, des vins frais et légers, selon le principe de compensation qui régit la culture diététique et gastronomique de l'époque.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir l'histoire de ce métier, le métier de sommelier d'hier à aujourd'hui. Et vous êtes dans un cadre idyllique, en effet, au restaurant Le 5 de l'hôtel Georges V, avec Éric Beaumard, le chef sommelier du Georges V.
Et oui, chère Anissa, nous sommes toujours donc dans ce cadre extraordinaire et avec ses invités de choix, dans le Saint des Saints de l'hôtel Georges V. Alors je dis le Saint des Saints, pas tout à fait, parce que tout à l'heure nous allons descendre dans les caves avec, s'il vous plaît, comme cicérone, Éric Beaumard en personne. J'en étais à l'histoire des échansons et petit à petit on s'est mis à parler des sommeliers. Si l'on suit toujours Alain Rey, vous savez qu'Alain Rey est un peu notre guide dès qu'il est question de terminologie, le mot sommelier désigne au XVIIe siècle, à la cour de France, l'officier qui est chargé du couvert mais aussi de la préparation du vin. Quant à l'échanson, il est toujours là et c'est lui qui sert à table le précieux breuvage. On pourrait presque dire que finalement, dans tous nos grands restaurants, les personnes qui s'occupent de nos verres ne sont pas en vérité des sommeliers, mais des échansons, sauf que le terme a évolué. C'est ainsi que, voulez-vous, sont les glissements de sens de l'histoire. C'est d'ailleurs assez passionnant de voir ça. Les termes ne sont d'ailleurs pas vraiment bien fixés. La grande figure dans ce domaine, c'est celle de Vernier, qui est connu pour être mort centenaire en 1758, après avoir servi, au fil de l'histoire, toutes sortes de princes et de souverains. Charles Le Joncourt le précise, il avait été, donc on parle de ce monsieur Vernier, il avait été au service de Louis XIV, qui le fit mettre ensuite sur l'état de la maison du duc de Bourgogne, le père de Louis XV. Il passa en Espagne à la cour de Philippe V, qui donc était le petit-fils de Louis XIV, lorsque ce prince alla prendre possession du royaume d'Espagne. Enfin, Vernier vint à Naples pour être employé dans la maison de Don Carlos, lorsque celui-ci monta sur le trône des deux Siciles. Vous imaginez cette carrière absolument extraordinaire. Le titre de grand échanson n'est bientôt plus porté à la cour de France. Le dernier de l'ancien régime est connu au début du XVIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, des serviteurs s'activent toujours pour contribuer au repas de la haute société. La marquise de la Tour du Pin, citée par Gérard Mabille, raconte l'organisation d'un repas sous Louis XVI. Alors tenez-vous bien. « Dans ce temps-là, dit-elle, toute personne ayant un domestique décemment vêtu se faisait servir à table par lui. On ne mettait ni carafe ni verre sur la table, mais dans les grands dîners, on posait sur un buffet des seaux en argent contenant des bouteilles de vin d'entremets avec une verrière d'une douzaine de verres. Et ceux qui désiraient un verre de vin, d'une espèce ou d'une autre, l'envoyaient chercher par leur domestique, celui-ci se tenait toujours debout derrière la chaise de son maître. C'était donc une organisation très lourde. Alors évidemment, même dans certains repas, on sait que Louis XV, par exemple, faisait desservir ses tables par un mécanisme qui permettait de n'avoir pas affaire au personnel. Donc évidemment, en fonction de la solennité du repas, on avait plus ou moins recours à tout cela. Quoi qu'il en soit, le souffle de la Révolution ne tarde pas à rebattre les cartes, et dans un contexte de développement et d'accès de la bourgeoisie au pouvoir, on va voir arriver de nouvelles mœurs. Il faut vous dire aussi que c'est le début de la Restauration, puisque tous les grands chefs des tables princières, des cuisines princières, vont se mettre au service de la population dans les restaurants. C'est donc au début du XIXe siècle qu'on va voir apparaître le sens contemporain du mot sommelier. Alors là, vraiment, ça prend un développement extraordinaire. La progression est continue jusqu'à la fin du siècle, nous dit Philippe Thibault. En 1850, l'almanach annuaire de commerce d'Ido Bottin livre 400 adresses de restaurateurs parisiens. Il passe de 800 en 1870 à 1600 en 1895. Les bouleversements politiques n'y porteront aucune atteinte. Certaines maisons périclitent et ferment, mais d'autres prennent la relève. Bien entendu, ces restaurants sont d'un standing très différent. Le service n'y est pas du tout organisé de la même façon. Et le service du vin compte beaucoup, bien sûr, dans l'attente des clients. Ça, c'est de ce point de vue, ça n'a pas changé. Alors quand il y a un sommelier, ses attributions se rapprochent de celles qui sont les attributions du sommelier d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, il réceptionne des barriques de vin dans sa cave, il en contrôle le contenu, il décide de la mise en bouteille qui est effectuée directement au restaurant. Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse précise « Ses attributions se restreignent à la surveillance de la cave. C'est lui qui se charge de l'achat des vins, de leur conservation, de leur distribution. La clé de la cave ne sort jamais de ses mains. Il préside à toutes les opérations que subissent les liquides. Il ne passe pas un seul jour sans visiter les provisions. La place du sommelier pendant les repas est auprès du buffet dont il est le chef suprême. Il ne doit le quitter que pour venir de temps en temps faire le tour de la table et s'assurer par lui-même de la manière dont le service s'accomplit. » Alors il faut noter qu'au XIXe siècle, l'ordonnancement du service du vin est déjà tout un art. Des règles sont précisées par les gastronomes. Je pense à Brillat Savarin, bien entendu, hein, au premier rang de tous. Voilà ce que nous dit Alexandre Dumas, qui a, ne l'oublions pas, écrit un grand dictionnaire de cuisine. « Avec les huîtres, les hors-d'œuvre, on offre du vin blanc de Bourgogne ou de Bordeaux, dit-il, ou les deux simultanément, ça pourquoi pas, et dans les meilleurs vins fins possibles. Au premier service, le Bordeaux d'abord, le Bourgogne rouge ensuite. Ils devront être pris parmi les plus inférieurs qu'on se propose d'offrir. Entre le premier et le second service, on offre un vin de Madère, de vieux cognac ou de rhum, ou bien encore du vermouth de première qualité. » Au second service, on offre alternativement du Bordeaux, du Bourgogne ou de l'Ermitage, mais de qualité dite des grands ordinaires. Aux entremets, il faut offrir les vins fins, de toute provenance, mais rouges. Au commencement du dessert, on doit présenter les vins à grande réputation de grands crus, de divers pays, de diverses couleurs. Le vin de champagne se sert le dernier des vins qu'on boit en mangeant. Pour terminer le repas, on offre du vin de liqueur, mais il serait plus prudent de n'en pas boire, car en cet état, cette nature de vin trouble la digestion. À moins cependant qu'on puisse offrir du Tokaj, Constance, Shiraz, Chypre et leur pareil. Eh bien, on se dit qu'à la table d'Alexandre Dumas, on devait bien s'amuser, mais qu'il devait être assez difficile de s'en lever, n'est-ce pas, Éric Baumard ?
Mais vous savez, l'exemple de ces repas, on peut les interpréter aux cinq. Hein. Je l'ai vécu. Quand j'étais à la Poularde à Montreux-les-Bains, j'ai vu des nuits passer avec les clients. Hein. Où j'ai vécu, et on oublie la chartreuse.
Et oui, la chartreuse, enfin.
Les repas durent toute la nuit. À la Poularde à Montreux-les-Bains, 5000 habitants.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
5 juin. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Enfin, nous sommes là, entre nous tous les deux. Seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais pas recommencer. Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Il entr'ouvre le cœur, il donnera ce soir le ton et la couleur au jardin de la braise et cristal du désir. À notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir.
La petite messe solennelle de Juliette à l'instant sur Europe 1, alors qu'à Bordeaux, On est en train d'inaugurer en ce moment la Cité du Vin. Vous avez décidé de mettre à l'honneur le métier de sommelier cet après-midi, Franck Ferrand, avec une émission spéciale depuis le restaurant Le 5 de l'hôtel Georges V. Avec vos invités, vous recevez Nicolas de Rabaudy, chroniqueur de gastronomie, écrivain du vin, Christian Lesquer, chef 3 étoiles du restaurant Le 5 au Four Seasons Georges V à Paris, et puis Éric Beaumard, le chef sommelier du Georges V et directeur du restaurant Le 5.
Vous avez conscience, cher Éric Beaumard, alors que vous êtes en train d'évoluer entre les tables, de conseiller à vos clients le vin qui conviendra le mieux à ce qu'ils ont choisi sur la carte, alors que, en quelque sorte, vous faites étinceler tous ces nectars dans les superbes verres du restaurant Le 5, vous êtes conscient de cette tradition ? Vous vous inscrivez vous-même dans cette lignée-là ?
Ah oui, alors, deux choses. On est obligé d'observer ce qui se passe, en fin de compte. La consommation change. Les gens vont peut-être boire peut-être légèrement moins, mais mieux. J'ai établi mon identité au travers de ce jeu des vins et des mets. Pourquoi ? Parce que l'occasion sur cette carte qui est très importante, elle est riche, il y a 2750 références, donc c'est beaucoup. Elle peut intimider en fin de compte la clientèle. Et donc, la cuisine de Christian, je l'ai inscrite dans ma mémoire et trouvé à chaque fois qu'il fait un nouveau plat un vin qui puisse fonctionner. Et je le sers au verre. Donc ça veut dire qu'on a une très grande plasticité de service. Et moi, je trouve ça merveilleux parce qu'en fin de compte, les gens peuvent rêver avec 5 plats, avec 5 vins. Mais on peut aussi servir des vins en bouteille. C'est pas le, voilà, c'est...
Alors, nous allons venir dans un instant aux différents vignobles et à leur évolution, justement.
Oui, oui.
Il faut quand même, Nicolas de Rabaudy, que vous nous expliquiez en quoi le sommelier est en quelque sorte l'âme d'un repas. C'est ce que vous m'avez dit récemment alors que nous étions en train de déjeuner ensemble.
Oui, bien sûr, parce que le vin est constitutif, c'est la parure du repas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que sans vin, c'est la tristesse absolue, n'est-ce pas ? C'est la déprime.
Vous allez nous obliger à dire, vous savez, qu'il faut consommer avec modération, etc.
Bon. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes pour le régal des papilles,
n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? La table, ici, c'est un grand moment de bonheur, de plaisir, de mémoire et de culture. La vin, c'est de la culture, c'est un savoir, n'est-ce pas ? C'est ce que fait Éric Beaumard, il transmet un savoir, il transmet une expérience, puisqu'il connaît tous les vignobles du monde, c'est ce qu'il raconte dans son livre « Les vins de ma vie ».
Incroyable livre,
donc,
oui.
Un voyage magnifique dans 75 grands vins, grands vignobles et aussi grandes eaux de vie.
On en parlera donc, tout à l'heure.
C'est ça, si vous voulez, la parure de repas, c'est en cela qu'on a 3 étoiles. Parce que le guide Michelin n'est pas idiot, on voit bien que quand le plat est agrémenté d'un très grand blanc ou d'un très grand rouge ou d'un très grand porto pour le dessert, ça veut dire quelque chose pour le plaisir du consommateur. Ça s'appelle l'œnophilie. L'œnophilie, ça fait partie de la gastronomie. Le sommelier, il apprend les manières françaises. Il apprend la façon de boire. Il apprend le goût. Il apprend ce que Beaumard transmet, c'est-à-dire un savoir-vivre et
alors,
un savoir-boire.
Je racontais tout à l'heure que finalement, l'idée d'avoir un sommelier qui vous conseille et qui accorde les vins avec ce que vous avez dans l'assiette, c'est une idée très récente, mais qui remonte grosso modo à la dernière guerre mondiale. En fait, c'est
oui.
Tout récent.
Enfin, le premier que nous connaissons tous est Jean-Luc Pouteau, ancien chef sommelier de la Marée. En 1983, il est meilleur sommelier du monde, n'est-ce pas ? C'est un événement historique. Il passe à l'émission de Jacques Martin le dimanche matin, qui lui fait déguster 10 vins,
à l'aveugle,
il trouve tous les vins.
Sûr, oui,
il devient une sommité mondiale. Mondiale, n'est-ce pas ? Un grand monsieur.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que le vin a acquis un autre statut depuis, je ne sais pas, moi, une quarantaine d'années peut-être ?
J'ai dit que le vin était de la culture, puisque le vin est entré dans la civilisation de la table grâce aux visites de vignobles, grâce aux sommeliers, grâce aux livres, grâce à Michel Bétane et Thierry de Sauve, grâce à la Revue du Vin de France. N'est-ce pas ? On a transmis un savoir.
Alors, puisque le chef Lesquer est avec nous, profitons-en. Est-ce que, lorsque vous concevez un nouveau plat, vous songez au vin qui ira avec ?
Bien sûr. Je crois que les gens qui décident justement de venir manger dans un restaurant dit étoilé, le vin a sa part. Comme dirait Nicolas, c'est une parure. Je trouve que le mot est très beau parce que c'est vrai qu'avec Eric, quand j'ai décidé d'arriver dans cette maison, j'avais commencé à apprendre le vin. Et je me rappelle toujours, j'étais le chef du Café de la Paix où j'ai mis 2 étoiles en 95. J'avais mis 2 étoiles au guide Michelin. Et j'avais toujours un client qui me disait « Mais tes plats sont bons, Christian, mais tu travailles tout seul. on ne peut pas boire de vin. Donc, en tant que cuisinier, je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Il a fallu que j'arrive chez le doyen, qui était une maison beaucoup plus raffinée, on va dire. Et justement, chez le doyen, ces clients que j'avais, c'était des hommes qui aimaient le vin. Donc, j'ai trouvé un sommelier qui était monsieur Alain Loiseau, qui m'a appris la Bourgogne et le Bordeaux. Et là, j'ai commencé à être amoureux du vin. Donc, j'ai voulu comprendre pourquoi les clients venaient manger mes plats et pourquoi il fallait que je travaille. Il y avait des vins qui étaient gracieux, des vins qui avaient été codifiés comme la cuisine. Et là, il m'a appris, on a construit. Il est parti à la retraite et vous avez un autre jeune sommelier qui avait plutôt une tendance à servir d'autres vins, d'autres régions.
Faire des découvertes,
Il m'a appris le vin du Languedoc, des petits vins de Loire. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et quand je suis arrivé, j'étais mûr pour Eric, qui était quand même, on va dire, le ténor.
C'est ça.
Un ténor de la sommellerie française. Et c'est une histoire de gourmandise et de jouissance. Ça veut dire que lorsqu'on associe un mets avec un bon vin, vous avez le mets qui prend de la valeur et le vin qui vient l'accompagner. Et je trouve que vous passez des moments unis. Et tous les gens qui viennent ici trouvent que le moment est unique. Là, on vient de créer une asperge aux abricots. On a commencé blanche, l'amertume et le sucré de l'abricot. Et Eric a eu la brillante idée de dire, on va mettre du sauterne. Et là, vous avez quelque chose, sortir un verre de sauterne en entrée avec une asperge blanche, c'est parfait.
Ah, c'est fabuleux.
Voilà comment on travaille au départ, à l'origine de la création de la recette. On va dire comment je vais composer les saveurs. Eric goûte et voit l'évolution de la saveur. Et lui, ça le fait travailler la région. Pourquoi il va mettre ce plat? Et ce plat donne quelque chose d'unique en finale.
Exactement, en ce moment, ce qu'on a avec le petit pigeon qui arrive, avec cette sauce olive noire et truffe. Et l'olive noire est tellement éclatante, sans écraser le pigeon, il n'y a pas d'autre vin que la côte rôtie.
Ça vous est paru évident. Ah, mais c'est évident.
Eh oui, la côte rôtie de chez Jean-Paul Jamais, les côtes rôties ont des bouquets qui rappellent cette olive noire à la Kalamata. Enfin, c'est éclatant. C'est...
Lorsque vous êtes arrivé ici, vous aviez déjà à disposition une cave importante
ou c'est non,
vous
qui 40 bouteilles.
Ah non. Donc
c'est pour ça que
vous avez constitué la cave.
Oui.
Ça, c'est formidable.
Oui, parce que j'ai senti que ça serait qu'une fois dans sa vie.
Ah ben oui. Ça...
Voilà.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il est engagé ici par Didier Le Calvez avant le cuisinier. Il est tout seul, il ne sait même pas qui va faire la cuisine.
Ah,
et monsieur Le Calvez lui dit, si le cuisinier que je vais choisir ne vous plaît pas, vous pourrez repartir.
Oui.
J'ai trouvé ça phénoménal. Hein.
Nous avons toujours l'image du sommelier qui est en salle, qui est au contact de la clientèle. Mais en fait, votre travail se fait en grande partie en amont, bien entendu. Il faut que vous connaissiez, par définition, les différents, soit négociants, soit
les propriétaires.
Propriétaires
quasiment à 99% à la carte du Georges V et du 5. En clair, je pars 2 jours par mois.
Dans des vignobles différents chaque fois, bien sûr.
Oui, c'est codifié comme ça. Alors, Christian trouve que je pars souvent, mais faudrait que j'emmène avec
moi. Non, je suis un peu jaloux parce que je voudrais bien comprendre plus le vin. Je me suis dit, un jour, s'il part à la retraite, je vais comprendre le vin et peut-être je pourrais acheter du vin aussi pour le 5.
Vous pourriez faire la même chose pour les produits qui servent à votre extraordinaire cuisine, après tout.
On essaie justement de savoir toute la traçabilité de nos produits, comment ils sont levés. Même, je prends par exemple, moi qui suis un homme de la mer, ça veut dire que j'aime le côté iodé des plats et j'essaie justement de savoir de quel petit bateau, de quel port ils arrivent.
Est-ce qu'il y a une cuisine spécifique au palace, Nicolas Drabaudy? Est-ce qu'on peut parler d'une cuisine de palace?
C'est une très très bonne question puisque la grande cuisine française du XXe siècle elle commence par Auguste Escoffier. Auguste Escoffier à l'hôtel Ritz en 1902. Donc la carte qu'établit Auguste Escoffier, c'est la carte d'une cuisine de luxe. Le luxe gastronomique, c'est-à-dire le luxe qui concilie la troisième étoile et le talent du chef, ce luxe gastronomique, c'est d'abord les grands produits. Les produits médiocres vous trahissent. Je prends un seul exemple. Faisons attention aux saumons que nous consommons. Parce qu'il y a des saumons qui sont de pur...
Donc on doit choisir
le travail du chef de cuisine dans un grand palace. C'est d'abord l'exigence absolue des produits nobles.
Pour rebondir sur Nicolas, je crois que on a incorporé des petits produits dans les palaces. Oui. Donc, on vient chercher plutôt une cuisine de signature de chef. Je prends par exemple, chez nous, on sert quand même du boudin fait maison.
Qui normalement est un plat de bistrot, disons les choses.
Voilà, ça veut dire que cette cuisine qu'on faisait de la rue ou dans les maisons bourgeoises, mm-hmm. on essaye d'incorporer cette maison bourgeoise dans nos palaces. Donc, tous ces gens viennent manger aussi bien des abats, des petits abats, comme des petits poissons, même au sein. Et on n'a pas peur de mettre simplement un petit plat de légumes et de grande qualité.
Mais aussi peut-être parce que votre clientèle est très internationale et que ce qu'elle vient chercher, Eric Baumard, c'est un peu de parfum de la France aussi, sans doute.
Oui, il cherche avant tout que le tableau soit vraiment dessiné par le vrai
c'est
peintre.
Ça. Hein,
voilà. C'est-à-dire que on vient goûter la cuisine de Christian. Donc,
goûter les vins d'Eric.
Ouais. Non, juste une petite mention, Franck. J'ai eu l'occasion de participer au plat de chef pour que ça aille avec les vins. Avec Christian, c'est tout l'inverse.
Ah, voilà.
Christian, j'ai suivi sa cuisine.
Quel hommage.
Je donne un exemple, c'est la gratinée à l'oignon. Bon, une soupe à l'oignon, il faut y penser. Bon. On a associé ça avec un verre de Madère. Bon, c'était un feu d'artifice. Enfin, mais c'est, voilà, c'est exactement la recherche que je vais faire sur le Merlan ou que je vais faire à l'heure actuelle sur le Poix de Veau. Mais c'est super excitant. Voilà. Mais c'est lui qui la dessine. Et effectivement, c'est une cuisine qui est décomplexée. C'est sa cuisine à lui, et moi je le soutiens à 2000%. C'est-à-dire que même si on met du merlan, même si on met du boudin, et oui, on peut le faire, si c'est raffiné et équilibré.
Et parfait.
Exactement.
Mais chez Lasserre, il y avait de la blanquette de veau.
Après tout.
Et du navarin d'agneau. Je me souviens René Lasserre qui disait, Nicolas, j'ai mis du navarin d'agneau, mais est-ce que je vais le vendre? Et c'était en rupture de stock tous les déjeuners.
En même temps, vous êtes le premier à me dire qu'une carte de grand établissement où il n'y aurait ni truffe ni caviar ne serait pas
bien
une
sûr, bien ne sûr, serait pas les gens viennent pour ça.
Voilà. Alors, ce que je vous propose, Eric Baumard, c'est de vous suivre maintenant. Nous allons quitter les ors et les marbres de cette grande salle pour vous suivre dans les arcanes de la cave du Jean Moussin.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire du sommelier, une émission depuis le restaurant Le 5 de l'hôtel Georges V à Paris, avec vos invités, Franck Ferrand, Nicolas de Rabaudy, chroniqueur de gastronomie et écrivain du vin, Christian Lesquer, chef 3 étoiles du restaurant Le 5 Four Seasons Georges V à Paris, et Eric Baumard, chef sommelier du Georges V et directeur du restaurant Le 5. Vous êtes maintenant, Franck, dans l'antre du sommelier.
Ah, c'est un changement de décor radical que je vous propose, puisque, chose première, chose due, Eric Baumard nous sert de guide dans ce qui est son antre, en quelque sorte, cette cave du Georges V que vous avez créée ou recréée, Eric Baumard.
Alors je l'ai recréée, hein, parce qu'en fin de compte, cet endroit existait à l'ouverture de cet hôtel. On l'appelle communément la cave Rock. Elle a été creusée en 1926. Elle a été murée pendant la Deuxième Guerre mondiale, protégée. Elle a été revendue derrière.
Murée pour que l'occupant ne sache pas les trésors qui se cachaient derrière le mur.
C'est ça, toute la cave. Hein. Ouais. On a le Ritz, c'est la tour d'argent comme ça. Hein. Ouais. Et revendue après pour faire le dernier étage de l'hôtel, reconstruite et à la fin revendue. Quand le nouveau propriétaire l'a racheté en 94.
Alors, elle est assez spectaculaire, cette cave. Pour la décrire à nos auditeurs, il faut dire qu'on n'est pas dans une vieille cave médiévale. Évidemment, vous nous dites vous-même qu'elle a été créée à l'époque récente, hein, oui, dans les années 1920, évidemment, au moment où l'hôtel est conçu. Elle est assez rectiligne, avec des casiers qui sont constitués de caisses de vin et sur les flancs des caisses en question, des noms, j'aperçois là, juste sous mes yeux, Pétrus, Château-Aubrion, enfin, la Romanée-Conti, que sais-je encore.
En fait, quand on l'a nous-mêmes construit, Franck, c'est-à-dire qu'on a tout construit, les casiers, tout fait, tous les vins, je les ai goûtés. Hein.
Ah oui.
Donc, c'est extrêmement rare. Et on a exposé nos bons moments avec les clients. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouteilles vides debout, parce que c'est les bons moments avec
souvenirs.
Les clients.
Ce sont des souvenirs.
Parce que c'est comme dit Nicolas, le vin, c'est le bonheur, mais c'est aussi le souvenir avec le temps.
Je soupçonne Eric Baumard d'être un peu modeste, en fait, Nicolas de Rabaudy.
Oui,
il a tout fait ici.
Il a tout fait, oui, bien sûr. L'hôtel, c'est quasiment à lui.
Mais bon,
c'est-à-dire qu'il arrive ici quand même en 2000, hein, 99, quand il n'y a aucune bouteille. Il y a 30 bouteilles. Donc, immédiatement, il achète 5000 bouteilles qui partent dans 3 mois, un truc comme ça.
Quasiment, ouais.
Et incroyable. Hein. Donc, ici, c'est la maison du vin. Hein. La maison du vin. Ici, il y a des très, très grands clients. Il y a même des clients qui ont leur vin leur pétrus ici, qu'il élève lui-même.
Ouais. Il le laisse en garderie, d'une certaine manière.
C'est-à-dire pour le déguster avec lui. Avec
non Eric pas Combe. En garde-vin, hein, mais en garderie.
Comment est-ce que vous vous y repérez au milieu
de
tout ça?
En fin de compte, tous les casiers, on sait les régions globales de cette cave. Tous les vins sont répertoriés par numéro et on a un livre de cave, énorme livre de cave, qui présente tous les vins. Tous les vins en casier qui sont répertoriés sur la carte des vins. Voilà.
Est-ce que tous les vins qui figurent dans votre ouvrage sont ici présents dans la cave?
Franck, évidemment.
Évidemment. Hein.
Ben oui.
Ce sont les vins de votre vie.
Oui, c'est... effectivement, je n'ai pas tout mis les vins de ma vie dans le livre, hélas. Mais pour moi, ça fait partie... Je n'ai pas de discours. Les vins qui sont ici sont les vins que j'affectionne, que je vais chercher tous les ans, tous les mois... que je peux avoir dans ma cave privée. Bon, certains, je peux pas, parce que c'est des flacons extrêmement rares. Mais tout est lié. Enfin, je n'ai pas deux discours, je n'ai qu'un.
Et cette collection, en quelque sorte, elle raconte autant d'histoires.
Ah, oui,
parce que c'est ce qui est magnifique dans votre ouvrage. Ah, ouais. C'est qu'évidemment, vous vous attachez beaucoup à ce que raconte chacun de ces
vins. J'y mets beaucoup de cœur, hein. Peut-être un peu trop. Je ne sais pas, on ne met jamais assez. Mais effectivement, tous ces moments avec les vignerons... on doit garder la probité de ses achats, bien sûr. Ça devient, bien évidemment, souvent des amis et les clients aussi. Au bout du compte, on va au-delà et on va goûter des vins ensemble. Vous avez une collection en face de vous qui fait quasiment 300 bouteilles de Pétrus qui ont été bues avec un ami client qu'on a bu ensemble. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui aiment le vin aiment partager, Franck. Voilà, ça c'est la particularité du monde du vin, c'est qu'on ne va pas boire tout seul, sinon c'est le début de la fin.
Il faut que vous expliquiez à nos auditeurs comment vous y êtes venu, vous, au monde du vin.
Mais par défaut.
Eh oui.
En fait, quand j'étais cuisinier, j'adorais ce métier, et puis j'ai eu un grave accident. J'ai repris le travail
de moto,
en venant de mon travail. Et j'ai repris le métier de la cuisine quand même, au bout de 3 ans. Et c'est Olivier Rollinger qui m'a pris sous son épaule, parce qu'il avait eu déjà des soucis. Donc il savait ce que c'était que la difficulté, du handicap d'ailleurs. Hein. Et il a vu les limites, en fait, compte de son handicap au travers de la cuisine. Il m'a dit, il faut que tu te mettes dans le vin, parce que le verre est très proche de l'assiette. Et avec mon épouse à l'époque, ma future épouse, on est parti dans le vignoble. Et puis j'ai découvert un monde merveilleux d'histoire. Et puis je me suis mis dedans à 100%. J'aurais jamais imaginé un seul instant que je me retrouverais un jour en finale du meilleur sommelier du monde, jamais ceci. Mais c'était tellement passionnant. Et par l'histoire, Franck, par l'histoire. Parce que c'est une histoire absolument d'une richesse incomparable. On a l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore, mais positive.
Étonnante.
Quand il commence à étudier le vin, il fait des études en Bourgogne, à Bordeaux, en Champagne. Ouais. Il va à l'école du vin, n'est-ce pas ? L'école théorique avant de faire l'école pratique.
Mais justement, non pas évidemment cet après-midi refaire toute l'histoire du vignoble français, Nicolas Drabaudy, mais il faut peut-être expliquer à quel point ces vins, lorsqu'ils deviennent un élément central de l'art de vivre à la française, c'est-à-dire dans le courant du XVIIIe siècle, à quel point ces vins s'imposent non seulement ici en France et à la table des rois, des empereurs et des président, mais aussi dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire que c'est une part de notre identité qui se trouve ici conservée dans cette extraordinaire collection. C'est la France d'une certaine façon,
bien
non ?
Bien sûr, c'est la France, des bouteilles, des grands vins, des bouteilles historiques, des flacons de rêve. Hein. Et c'est ça que nous exportons. Hein. Il ne faut pas croire que les exportations de vin en France, ça équivaut à 10 milliards d'euros. Hein. La France n'est pas un petit pays du vin. Même s'il y a des vins modestes, il y a des très grands vins que le monde entier nous envie. Je me souviens que des Bordelais et des Champenois allait à Cuba avec des champagnes. Imaginez-vous, début du XIXe siècle, le Charles Sic allant à Cuba portant son vin sur ses épaules quasiment. Et donc le vin s'était exporté depuis très longtemps.
Alors il y a aussi du vin qui s'importe. Quel est votre regard sur tous ces nouveaux vignobles qui arrivent d'Amérique ou d'Océanie?
Il y a une évolution qualitative absolument remarquable du fait, bien sûr, du croisement des cultures et du savoir. On ne peut pas arrêter le savoir, Franck. Il doit se partager. Ensuite, les climats vont faire les différences, et les sols aussi. Donc l'expression viticole mondiale va de l'avant. Je trouve que c'est assez positif, parce que pour moi, c'est un brin de culture quand on se respecte soi-même. On se respecte la semaine, c'est pas trop boire, mais le vin amène de la culture, donc c'est très positif. Après, dirons-nous, comment je pourrais formuler l'épitaphe de ça? C'est dire qu'on est extrêmement bien gâtés en France, quand même.
Oui.
Ouais, on a dans
avec
le
des climats tellement variés.
Incroyable.
Des sols tellement
On a riche. Quelque chose que peu de gens savent. C'est-à-dire que la mer a recouvert la France. Il faut beaucoup de calcaire pour faire du grand vin. On est bourré de calcaire en France. C'est une des grandes forces des grands vins français. Verrouillé sur le 45e parallèle nord, donc une climatologie très, très tempérée. des sols adéquats, trois climatologies méditerranéennes, océaniques et continentales sur un petit pays.
Une telle fait, variété sur incroyable. Un si petit terroir.
Mais c'est complètement... la mer au départ qui va marquer définitivement le sol français.
Hein. On observe des modes dans l'affection ou la désaffection que la clientèle manifeste à l'égard d'un certain nombre de...
Toujours. Oui. La mode est liée à nos changements continuels. On parlait de ce champagne qui était bu en fin de repas. Maintenant, il est quasiment inconcevable de le boire en fin de repas. On le boit toujours au début de repas. Voilà. Le champagne était quasiment doux dans les années 40 et 50. Maintenant, on est quasiment dans l'extra brut. Il y a quasiment plus de sucre. Bon. Donc, on a des changements. Le rosé de Provence qui... il y a peut-être 30 ans, si vous vous souvenez, Franck était mal considéré, oui, vraiment, oui. Et encore je suis assez
poli.
maintenant, c'est une tendance forte l'été de boire des superbes rosés de Provence qui techniquement sont remarquables.
Sont magnifiques, oui.
Donc non, bien sûr que c'est une mode, bien sûr. Bien
oui,
sûr.
Il y a des évolutions, évidemment.
Oui,
il y a
et
tout ça change, et tout ça, reviendra. Forcément.
Voilà, notre grand bouleversement qui est compliqué à gérer, c'est le respect de l'environnement. À l'heure actuelle, on doit faire attention et c'est pas facile. C'est pas facile.
Si je devais, vous savez, on me demande souvent quelle est ma période de l'histoire préférée. C'est une tannée, on me pose cette question. Eh bien, je vais me venger en vous demandant si vous deviez vous choisir une bouteille là parmi toutes celles qui nous environnent et qui constituent des murs entiers de culots de bouteilles.
Plein de bouteilles qui m'affectionnent. Hein. Mais peut-être, à l'heure actuelle, si j'avais une bouteille à choisir ce soir, avec le pigeon comme je vous citais, ça serait une cuvée Catelyn chez mon copain Gérard et son fils Jean-Louis Chave, 90.
C'est des vins voilà. De la vallée du Rhône, extrêmement rare.
Mais je dis pas ça, parce qu'après, il y a Julien qui est là, ils vont l'ouvrir alors. Parce que...
C'est avec ces vins-là qu'on se crée des souvenirs éternels.
Ah oui.
Il faut bien voir ça, hein. C'est qui vous marque la mémoire et qui font que vous retournez au restaurant.
Ouais, tout simplement.
Bien sûr.
Et ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul ici, Eric Baumard. Il y a toute une brigade avec vous, bien sûr.
Aujourd'hui, on est 10, on va bientôt être 12.
Donc c'est quasiment la principale brigade de sommellerie de France.
Ah, bah, c'est la plus grande, ouais.
La plus grande.
Non, mais j'en suis très fier, hein. Et tous nos jeunes conformes qui vont évoluer dans le. Ça fait 16 ans, en fait. Presque plus de 20 ans que je forme des jeunes dans ce métier. Donc, bien sûr, c'est une fierté.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec une question de circonstance aujourd'hui, Franck Ferrand, une question de Vincent sur Europe1.fr. Il voudrait savoir d'où viennent les noms de bouteilles de vin comme Jéroboam ou encore Mathusalem.
Ah, ça, ce sont des termes, chère Anissa, qui ne concernent pas seulement les bouteilles de vin, mais aussi, et presque avant tout, le champagne. Ces noms de bouteilles sont empruntés, vous l'aurez compris, au monde biblique. Les grandes bouteilles de vin portent, dans l'ordre croissant de contenance, les noms suivants. Donc, Magnum, je parle évidemment sous le contrôle d'Éric Baumard, Magnum, double Magnum, Jéroboam, Réoboam, Mathusalem, Salmanazar, Balthazar, et alors... gigantesquissime, le Nabucodonosor.
Melchior.
Et le Melchior aussi, oui. J'ai oublié.
26 bon ben... bouteilles.
Ces noms sont empruntés à de grands personnages de l'histoire ancienne, ouais. Donc souvent bibliques. Il est difficile de trouver une explication précise, mais ce seraient les négociants de champagne qui leur auraient donné ces noms, inspirés des grandes civilisations du Moyen-Orient, comme Mathusalem, Balthazar, ou encore Nabucodonosor. À chaque contenant son origine, donc le Magnum c'est deux bouteilles de 75 centilitres,
oui.
Il serait connu lui depuis la fin du XVIIIe siècle, donc on fait de ces grandes bouteilles depuis longtemps déjà. Le Jéroboam vient de deux rois d'Israël dont le premier est considéré comme le fondateur et premier souverain du royaume. C'est l'industriel Pierre Mitchell qui était le fondateur de la verrerie royale de Bordeaux, qui aurait créé le, je dis qui aurait parce qu'on n'est pas tout à fait certain, mais enfin il semblerait que ça a été créé donc par les Bordelais en 1725. Et ça, c'est 4 bouteilles de 75.
C'est ça.
6 bouteilles, donc, c'est le Réoboam qui tient son nom de Roboam en hébreu, celui qui élargit le peuple. D'après la Bible, c'était un roi de Juda dans le dernier tiers du 10e siècle avant notre ère, fils du roi Salomon. Mathusalem, 8 bouteilles de 75 centilitres. Si j'en crois le dictionnaire d'Alain Rey auquel nous nous référons si souvent, c'est la version française du nom d'un patriarche cité dans le livre de la Genèse, en hébreu Matusela. C'est-à-dire l'homme de Séla, ce patriarche est considéré comme le père de tous les rois en quelque sorte. Hein, et son nom est symbole de très grande ancienneté. Salmanazar, 12 bouteilles, Balthazar, 16, Nabucodonosor, 20, et vous me dites qu'il existe
Melchior, 26 bouteilles.
Eh bien, je suis ravi que vous ayez pu vous-même, cher Éric Baumard, répondre à notre auditeur, à Vincent. Il pourra s'en targuer. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus ici, dans ce restaurant Le 5, au cœur de ce merveilleux palace parisien, le Georges V. Je vous laisse retourner à vos fourneaux, évidemment, Christian Lesquer.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Nicolas Drabaudy. Vous êtes un peu notre amphitryon. Est-ce que le terme vous convient ?
Mais pourquoi pas ?
Eh bien voilà, je suis ravi. Bonne journée.